Bonjour. Je suis très content d'avoir été là et d'avoir vu l'intervention précédente parce que il a été dit, je suis réalisateur et producteur. J'ai une société de production qui s'appelle Kidam Productions. On fait diverses choses. On produit des films, mais on produit aussi des événements. De la pédagogie par rapport à l'audiovisuel. Moi, j'ai fondé en 2005 le festival Pocket Film avec le Forum des images à Paris, qui a été le premier et le plus important festival consacré à la création de films avec des téléphones portables. Il a duré de 2005 à 2010, il a duré 6 ans. Il était soutenu et financé d'ailleurs par SFR. Il est devenu maintenant le festival Caméra Mobile qui a lieu à Valence, au Luxe, scène nationale. Il n'y a pas de site dédié en octobre en fait, mi-octobre. Il est là, le festival Caméra Mobile. Alors, pourquoi on a créé ça et en quoi ça peut vous concerner et ça vous concerne déjà parce que j'ai déjà travaillé avec certains d'entre vous et il y a un certain nombre de projets qui sont en cours. En fait, on a parlé des téléphones portables. Vous savez qu'il y a un très grand nombre de téléphones portables. Aujourd'hui, tout le monde est équipé d'un téléphone portable dans le monde. Hein. C'est à peu près 6 milliards d'équipements. À ma connaissance, on a vu qu'il y avait 500 millions de smartphones sur Terre. Ce qui s'est passé en 2005, c'est l'arrivée de la vidéo sur téléphone mobile. Pourquoi la vidéo arrive sur les téléphones mobiles? C'est simple, c'est des raisons économiques. C'est que c'est un nouveau service, la visiophonie, que les opérateurs avaient le désir de vendre. Pourquoi? Parce que ils sont sans arrêt à inventer des nouveaux services. Ils ont lancé en 2005, autour du réseau 3G, du réseau de troisième génération, la visiophonie, l'internet mobile, le MMS, l'envoi de vidéos, de photos. On pouvait prédire dès 2005 qu'une dizaine d'années plus tard, tous les téléphones seraient équipés d'une caméra. Pourquoi? Parce que le but d'un téléphone, c'est de vous vendre les services associés. Donc un téléphone 3G, un téléphone de troisième génération. Aujourd'hui, si vous allez au magasin, à part les deux petits modèles Nokia à 20 €, ça n'existe plus, un téléphone qui ne soit pas de troisième génération. Un téléphone de troisième génération, il est conçu pour pouvoir vous vendre l'internet mobile, la visiophonie et autres. Alors il se trouve que la visiophonie, vous allez me dire, on s'en fiche. C'est vrai qu'on n'utilise pas, ça a été pourtant un mythe de l'humanité, de dialoguer en visiophonie, mais c'est quelque chose qu'on n'utilise pas, mais n'empêche que ça faisait partie de l'offre de services. Et vous savez comme moi que les services qui sont proposés sont appropriés ou non par les utilisateurs. Par exemple, le SMS n'a jamais été un service conçu pour les utilisateurs, ça veut dire Short Message Service. C'était un service pour les techniciens, c'est pour ça que ça fait que 140 caractères, c'est nul, on peut pas faire de mise en page, on peut pas mettre des pièces jointes, etc. Mais on s'est approprié ça et c'est devenu quelque chose d'absolument énorme que tout le monde s'est approprié, qui change le langage même, et puis qui a donné naissance à Twitter, etc. Quand on parle de Twitter, ça paraît quelque chose de tout à fait moderne, alors qu'en fait, ça s'appuie sur une technologie extrêmement basique et qui n'a rien de moderne, qui s'appelle le SMS. Bref, quand on lance un service, on ne sait pas comment ça va être approprié par les utilisateurs. En tout cas, il est obligatoire pour les téléphones d'aujourd'hui d'être munis d'une caméra par rapport à cette histoire de nouveaux services. Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans au départ, quand SFR a sollicité le Forum des images, parce que c'est SFR qui a sollicité le Forum des images et non l'inverse, ils allaient vendre leur machin et donc il y avait la vidéo entre autres et ils voulaient être partenaires d'institutions culturelles. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que le téléphone portable, déjà à l'époque, on l'avait en tout cas dans nos sociétés, quasiment tous dans notre poche en permanence. Et il a changé notre rapport au temps, notre rapport à l'espace, notre rapport à la sphère privée. C'est très important, hein, les changements que ça opère dans nos façons de vivre, dans nos modes de vie. Après, on peut être critique par rapport à ça, mais c'est comme ça. Et du coup, on savait donc que, en gros, 10 ans plus tard, il y aurait une caméra en permanence dedans. Ça, c'est un fait social nouveau. C'est-à-dire que avant, on n'avait pas une caméra dans la poche en permanence. Pour avoir une caméra ou un appareil photo dans la poche, il fallait que je décide de le prendre. Donc, il y avait un axe comme ça volontaire de prendre une caméra. C'est plus le cas aujourd'hui. On a une caméra tout le temps dans la poche. Parmi vous, qui n'a pas de caméra dans son téléphone portable? Ok, il y en a un. Deux. Trois, bravo. J'aurais posé cette question-là l'année dernière. Il y aurait eu sans doute une dizaine de mains qui se levaient. Rappelez-vous de votre téléphone de l'année dernière. Et si je pose cette question à des adolescents, il n'y a aucune main qui se lève, évidemment. Et du coup, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, du point de vue culturel, c'est d'accompagner. Ça allait se développer. Vous en êtes la preuve vivante. Vous avez votre caméra tout le temps dans la poche. Est-ce que vous filmez des choses? Est-ce que vous mettez des choses sur Facebook ou sur YouTube en permanence? J'en suis pas sûr. Mais certains le font. Vous savez que YouTube, pour situer un petit peu d'économie, YouTube, c'est à peu près 3 milliards de vidéos vues chaque jour. Vous savez comme moi que à côté de la vidéo, il y a une publicité, que cette publicité, elle est vendue dans les 10 dollars pour les 1000 vues. Donc vous faites la règle 3 et vous pouvez déduire le chiffre d'affaires quotidien de YouTube, c'est-à-dire une partie de Google. Et puis, il y a un tout petit nombre des utilisateurs qui postent des vidéos sur YouTube, mais il y a quand même chaque minute qui passe 70 heures de vidéos supplémentaires disponibles sur YouTube. Chaque minute, il y a 70 heures de contenu en plus. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et c'est une économie qui s'appuie sur la participation des utilisateurs. C'est-à-dire que YouTube ne produit pas de contenu. YouTube ne met rien en ligne lui-même. Alors on peut mettre en ligne, bien sûr, des émissions qu'on a enregistrées à la télé, etc. Il faut bien se rendre compte que ces économies-là sont basées sur le piratage, hein. La question de la contrefaçon. Ça existe toujours la contrefaçon, mais les sites comme YouTube et Dailymotion échappent totalement à la loi, n'ont jamais respecté la loi et ne la respectent toujours pas. C'est-à-dire que on met une vidéo illégale dont on n'a pas les droits en ligne, il n'y a pas de problème, elle peut y être jusqu'à ce que quelqu'un demande qu'elle soit retirée et tout va bien. Oui? En effet, tout à fait. Depuis un an et demi, ils ont un système d'empreintes, en fait, hein. Les ayants droit de musique, notamment, peuvent déposer leurs empreintes et décider de ce qui se passe. C'est-à-dire, si vous mettez une vidéo, soit ils décident que les gens soient avertis, soit ils décident de partager les recettes publicitaires. Donc, même si vous mettez du Michael Jackson et que les ayants droit ont dit d'accord, eh bien, il va y avoir un partage de recettes publicitaires ou alors l'interdiction pure et simple. Bien sûr, ils essaient de travailler dans la légalité au maximum, mais au départ, ils n'y sont pas. Il y a énormément de contrefaçons sur ces sites. Bon, c'est comme ça. En tout cas, ce que je veux juste dire par là, c'est qu'il y a une économie florissante qui s'appuie sur la participation des utilisateurs, les gens qui font des vidéos, qui les mettent en ligne pour les partager avec leurs amis. Alors, par exemple, cette petite vidéo que vous connaissez peut-être, c'est le petit garçon qui mord le doigt de son frère, qui a été vu par 456 millions de personnes, hein. C'est assez gigantesque. Moi, si vous voulez, bon, bah, tout ça se passe. Ok, très bien. Mais en termes culturels, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça, c'est du commerce de bas étage. C'est-à-dire qu'on s'en fiche complètement de la qualité des vidéos. C'est pas la question. La question, elle est quantitative. Ça pose des questions sérieuses aux professionnels de l'audiovisuel. Parce que cette petite vidéo de 56 secondes faite par un amateur, elle a produit un chiffre d'affaires nettement supérieur au chiffre d'affaires de la plupart des productions audiovisuelles professionnelles. Et c'est une production amateur. Donc YouTube, qui est apparu aussi en 2005, YouTube et Dailymotion et autres, change complètement l'écosystème, on va dire, économique de l'audiovisuel. Donc, ça se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, moi, j'ai, depuis un certain nombre d'années, proposé des initiatives culturelles autour de la création avec, avec téléphone portable, la création audiovisuelle avec téléphone portable. Filmer les mots est l'une d'entre elles. Je vous le raconte brièvement. Vous connaissez sans doute comme moi la semaine de la francophonie et l'opération 10 mois 10 mots. On s'est appuyé à la demande de la semaine de la francophonie. On a proposé des ateliers de création à partir des mots. C'est-à-dire qu'on allait choisir un mot, ça va être le titre du film, et puis on crée le film qu'on veut. Donc on a, ça c'était le, il y a eu un concours 2012, les films ne sont pas encore en ligne, mais il y a eu donc en 2011 un certain nombre de films qui ont été faits, qu'on a, vous pourrez aller voir ce site Filmer les mots, de films faits par des gens un petit peu dans tous les pays, au Canada, en Espagne et autres. Quel est l'enjeu et comment on peut faire ? L'enjeu, me semble-t-il, c'est un enjeu d'expression. C'est-à-dire que le téléphone portable, on va filmer un truc, on va filmer ses amis, c'est sympa, et puis on va mettre ça sur Facebook. Qu'est-ce que c'est que ce geste ? Qu'est-ce que c'est que ce geste de faire une vidéo et puis de la mettre sur Facebook ? Bien, en fait, moi j'appelle ça un acte de langage. Pour ceux que ça intéresse, je montre juste là, j'ai produit un article qui résume un petit peu ce que je suis en train de vous dire, voilà, qui n'est pas en ligne, mais enfin que pour ceux que ça intéresse, que je pourrais transmettre, qui résume un petit peu ces choses-là. C'est un acte de langage. C'est-à-dire que... oula, l'ordinateur a planté, c'est pas grave, je le redémarre. Ça arrive, c'est un PC, c'est normal. C'est vrai. Avant, si vous voulez, pour faire une image, il fallait que j'aie un projet. Je décidais de prendre, comme je disais tout à l'heure, de prendre mon appareil photo, de prendre ma caméra. Et puis peut-être aujourd'hui, je me disais, tiens, bah, je vais peut-être filmer quelque chose, ou il y a un événement familial, alors je vais prendre ma caméra, voilà. Donc il y avait déjà des mots avant. Ou alors j'écrivais un scénario, vous voyez. Eh bien aujourd'hui, il se passe quelque chose, je sais pas, je suis dans un concert de David Guetta, je filme le truc qui m'amuse, et puis j'appuie sur « Share », la touche « Partager » qu'il y a sur tous les téléphones maintenant, et hop, ça va automatiquement sur mon compte Facebook ou sur mon compte... ou sur mon compte YouTube. Ce qui se passe, c'est que j'ai produit une image, je l'ai diffusée, sans qu'il y ait eu de mots préalables, sans qu'il y ait eu de, je veux dire, d'élaboration, de scénario. En cela, c'est un acte de langage. C'est-à-dire que je m'exprime comme ça, avec ce langage de l'audiovisuel, je transmets ça à mon groupe d'amis. Et du coup, si vous voulez, avant, on faisait ça qu'avec les mots, quoi. On transmet ces mots. Et bien là, on transmet des vidéos de façon comme ça, immédiate. Et ce langage, on le sait tous, il a une grammaire. L'image, elle a une grammaire. Si je filme quelqu'un en plongée ou en contre-plongée, c'est pas pareil. C'est soit l'admiration, soit la domination. Enfin, il y a toute une représentation. La façon dont tout un chacun filme, la façon dont j'ai filmé mes amis, la façon dont ce qui s'est passé entre nous, combien de temps dure ce film, etc., ça a du sens, c'est pétri de la culture dans laquelle on se trouve. Mais est-ce que j'ai bien conscience de ce que je suis en train de faire ? Est-ce que j'ai bien conscience de ce que je suis en train de dire, finalement ? Dans nos sociétés, on apprend à lire et à écrire, et c'est indispensable, vu qu'on est dans un monde de l'écrit, c'est indispensable de savoir lire et écrire et de connaître le langage. Si on ne connaît pas les règles de ce langage, on n'est pas libre. Je veux dire, on n'est pas en termes de citoyenneté, il y a quelque chose qui nous échappe, on le sait bien. Ceux qui ne maîtrisent pas le langage sont moins, je veux dire, libres que ceux qui le maîtrisent. Et donc, il me semble que la connaissance, la compréhension de qu'est-ce qui passe à travers ce langage de l'audiovisuel, de qu'est-ce qu'on transmet par nous-mêmes, c'est plus juste. On est victime de la publicité, on est acteur finalement dans ce langage-là, on transmet des choses. Eh bien, je crois qu'il faut y comprendre quelque chose. Je crois qu'il y a un vrai enjeu de société, un vrai enjeu de citoyenneté dans le fait de comprendre qu'est-ce que c'est que ces messages qu'on transmet. Et comment on fait pour s'approprier un langage? On peut faire un cours en expliquant qu'est-ce que c'est que le gros plan, le plan large, la plongée, la contre-plongée. Mais ça sert strictement à rien. On sait bien que c'est pas comme ça qu'on va apprendre. C'est pas en expliquant quelque chose à quelqu'un qu'on va lui apprendre quelque chose. Ça a jamais marché comme ça et ça a jamais marché comme ça. Pour ceux qui font un peu de pédagogie, on le sait. C'est à partir de la créativité qu'on va s'approprier un langage. De même qu'à l'école, on va vous demander de raconter vos vacances ou d'écrire une nouvelle ou d'écrire un poème. C'est à travers l'action créative qu'on va s'approprier le langage et qu'on va le faire sien. Voilà. Et du coup, c'est pourquoi il me semble que finalement, ce qu'on a à faire dans le monde de la culture avec ces choses-là, c'est de proposer des gestes créatifs, de proposer de l'expression, de proposer de la diffusion de ces choses qu'on exprime, afin que finalement tout un chacun s'approprie ce langage et soit un petit peu moins l'objet, finalement, le jouet de ces stratégies de multinationales comme YouTube et autres. Alors, concrètement, comment on peut faire? Parce que vous allez me dire, bah ok, super, on va lancer des... Attendez, je branche mon truc. On va lancer des concours, et en effet, moi je participe, alors il y a ces festivals que j'organise, mais je participe à beaucoup d'initiatives, beaucoup de concours qu'on lance. Et d'ailleurs, Arte avait lancé il y a quelques années, c'était un des premiers projets, quelque chose qui s'appelait The 20 Show. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était pour les 20 ans de la chaîne Arte. Et en fait, ce n'était pas avec les téléphones portables à l'époque, c'était avec les webcams. Ils avaient dit, on veut faire un truc sur les gens qui ont 20 ans. Et donc, ils avaient proposé un exemple, c'était un site qu'ils avaient proposé à des jeunes de 20 ans de se filmer avec leur webcam. Et eux, Arte, ensuite, auraient... à partir de toutes ces contributions d'utilisateurs, aurait fait le documentaire, le vrai de vrai documentaire sur les jeunes de 20 ans. Et donc il y a eu beaucoup, c'était en 2007-2008, il y a eu beaucoup de buzz, hein, on a beaucoup parlé de ce projet The 20 Show sur Arte. Il y avait 4 ou 5 vidéos exemples qui avaient été faites par des comédiens, et puis donc pendant quelques mois on pouvait participer et poster soi-même sa vidéo. Chose très simple avec sa webcam. En tout et pour tout, il y a eu 17 contributions à ce projet, y compris les 4 ou 5 d'origine. Hein. Alors, comment se fait-il qu'il n'y a eu que 17 contributions? On les voit, elles sont toutes les contributions, au nombre de 17. Comment se fait-il que ça n'ait pas marché? En fait, quand, je vais vous le dire, quand on propose la participation des utilisateurs pour la vidéo, ça ne marche jamais. Ça paraît complètement paradoxal. Je viens de vous dire qu'il y a 70 heures de vidéos en plus chaque minute sur YouTube. Et je vous dis là, mais quand on propose des choses, personne ne participe. Pourquoi? Parce que la participation sur YouTube, elle est spontanée. Elle est, je m'en fiche à la limite de la qualité de ma vidéo. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas un enjeu d'expression. C'est juste un enjeu de communication avec mon groupe d'amis. Et puis après, certaines font plus de succès. Par contre, lorsqu'on propose, et c'est ce qu'on peut faire nous, lorsqu'on propose une initiative culturelle avec un encadrement, etc., et qu'on propose à des gens de faire des vidéos, eh bien en fait là, quelque part, vu le cadre qu'on donne, c'est sérieux, c'est important, du coup c'est du travail, et faire une vidéo de qualité, c'est énormément de travail, et en plus les gens n'ont pas forcément envie de ça, donc les gens ne participent pas. Et pourtant, enfin c'est ce que je vous ai dit avant, il me semble très important de produire des initiatives culturelles autour de la création par les utilisateurs. En fait, comment faire? Eh bien, c'est en accompagnant les publics qu'on peut, en accompagnant les publics en amont, qu'on peut faire quelque chose. Par exemple, depuis 3 ans, je travaille avec les instituts français en Algérie, notamment d'Oran et de Tlemcen, sur proposer des stages à des jeunes algériens, des associations de jeunes, etc., des stages chaque année de réalisation de films. Et puis, depuis l'année dernière, ils ont choisi d'organiser eux-mêmes un petit festival Pocket Film là-bas en Algérie. Et je vais, début juillet, former du monde sur 5 jours pour organiser savoir accompagner les publics, savoir animer des ateliers en amont, comment dire, trouver le sens de tout ça dans, non pas autour d'un concours, mais trouver un sens un petit peu plus continu à tout ça. Autre exemple, il y a 15 jours, on a proposé à Évry, communauté d'agglomération d'Évry, un concours sur une journée marathon cinéma. Ça durait une journée, 24 heures, une thématique était donnée, les gens devaient réaliser des films, les rendre le lendemain soir, le samedi soir, et puis il y avait une remise des prix, un jury, une remise des prix. Ça, il y avait beaucoup de com, de la radio, des affiches, etc. Mais juste de la com, on n'aurait eu personne. Ce qu'on a fait, c'est que ce projet donc, était au mois de mai. En fait, depuis 8 mois avant, on a fait des formations pour des chefs d'établissement, pour des responsables de structures d'animation culturelle, des structures sociales, etc. Ce qui fait que des gens ont été formés, il y a eu des stages, il y a eu des sensibilisations, il y a eu plein d'initiatives comme ça, on a identifié, on a commencé à donner sens à des choses en amont, et du coup, ce tissu-là, cet intérêt pour la vidéo a fait qu'il y a eu 35 participants, 35 équipes au concours, etc. Sinon, je sais qu'on en aurait eu deux. Ça se passe toujours comme ça, et ça, je vous le dis, c'est important, il faut encadrer. Pourquoi ? Parce que on se sent, et je te passe la parole dans deux minutes, hein, on se sent pas légitime, si vous voulez, de faire soi-même une vidéo. On se sent légitime de la balancer à ses amis, mais on se sent pas légitime de créer quelque chose. Parce qu'on se dit, mon téléphone, il est nul de toute façon, et qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, l'encadrement, si vous voulez, il va donner confiance aux gens. Et vous savez, moi j'anime beaucoup d'ateliers, de formations, etc. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les gens vont tourner leur film, mais après avoir tourné leur film, ils se sentent toujours nuls. Si aujourd'hui je vous proposais de tourner un film ensemble, je fais beaucoup ça, des films collectifs, là on n'a pas le temps, mais notamment avec des profs de français langue étrangère, j'en fais régulièrement à l'Institut français de Bar de